Et tous, que ce que nous avons chanté, ça doit être vrai, même si mon cœur et mon chair se consument, que tu resteras mon seul bien. Alors, j'espère que nous ressentons ce que nous chantons. J'espère que vous vous souvenez que nous avons regardé ensemble, il y a quelques semaines, le 4 juillet, plus précisément, comment Jacob avait rencontré Dieu à Luz, en route pour Charan. Et aujourd'hui, nous continuerons à regarder dans le même passage de Genèse chapitre 28. Donc, je vous invite à tourner avec moi en Genèse chapitre 28. Nous allons lire à partir de verset 10. Genèse chapitre 28. À partir de verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu tendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je ne t'ai exaucé, et ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons remarqué que lorsque Jacob s'était installé pour dormir cette nuit-là, il avait été bouleversé et seul. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et Jacob n'était plus le même homme. Il avait rencontré beaucoup de monde, il avait beaucoup voyagé, il avait acquis différentes expériences et subi de nombreux problèmes et situations. Vous vous souvenez de son passage à Laban, son beau-père, l'oncle, le frère de sa mère. Mais il savait maintenant qu'il n'aurait plus jamais besoin de sentir seul. Car Dieu avait promis, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Le verset 15. Oui, il avait encore des dangers bien réels à affronter, mais Jacob n'avait pas besoin d'avoir peur, car Dieu lui avait promis de la garder dans tous les endroits où il irait et de le ramener sain et sauf à la maison. Jacob reconnut plus tard que Dieu avait effectivement tenu ses promesses. Le témoignage de Jacob à Rachel et Léa, ces deux femmes, plus de 20 ans plus tard, était ce que le Dieu de mon père a été avec moi. Le Dieu de mon père était avec moi. Lisons dans la parole de Dieu dans quelles circonstances Jacob avait prononcé ces paroles. Donc, nous allons tourner au chapitre 31, Genèse chapitre 31. En lisant les premiers 7 versets, nous allons comprendre dans quelles circonstances Jacob il a prononcé ces paroles. Le Dieu de mon père a été avec moi. Jacob entendit les propos de fils de Laban qui disait « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Verset 4, Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Combien d'entre nous on peut dire ces choses? Que le Dieu de mon père a été avec moi. Nous avons, après avoir traversé beaucoup de situations difficiles, de circonstances difficiles, nous sommes convaincus que Dieu était avec nous pendant tout ce temps. Même si les gens, ils n'étaient pas corrects avec nous, même si quand nous étions maltraités, nous pourrons dire ces paroles parfois. Le Dieu de mon père a été avec moi, dit Jacob. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu nous promet sa présence? Quand nous lisons l'histoire de Jacob depuis qu'il a quitté sa maison paternelle, nous apprenons ses épreuves, les problèmes qu'il a rencontrés durant toutes ces années, l'amertume qu'il avait dû avaler. Mais en dépit de tout cela, Jacob n'avait jamais oublié la promesse de Dieu, d'Abraham, son père. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. » En tant qu'enfant de Dieu, les enfants de l'adoption, les rachetés du Seigneur Jésus-Christ, n'avons-nous pas aussi hérité de la promesse? Je serai avec vous. N'a-t-il pas promis à ses disciples qu'il serait toujours avec eux? En Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en dépit d'avoir la promesse du Dieu souverain, pourquoi vivons-nous parfois notre vie dans la détresse et de l'agonie? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéer, dit le psalmiste dans son 42e psaume. Bien souvent, nous voyons le silence de Dieu comme une absence parce que nous avons tendance à voir Dieu avec les yeux humains, à le rendre à notre image. Nous prenons Dieu comme un être humain, comme pareil comme nous. Donc, nous voyons le silence de Dieu comme son absence. Et nous voyons Dieu comme un simple homme. Nous oublions que Dieu est souverain et il est sage dans tout ce qu'il fait. Nous avons tous fait expérience de l'échec à suivre des gens que nous aimons. Donc, quand le Seigneur semble silencieux, on tient un non constant à nos prières. Nous sommes prompts à faire défection. On pense que Dieu nous a abandonnés. Nous lisons nos expériences dans son caractère, alors que vraiment, ça devrait être l'inverse. On commence à comprendre Dieu par nos propres expériences, par nos propres sentiments, comme nous ressentons. Et ce n'est pas correct d'essayer de comprendre Dieu comme nous, on peut comprendre. Deuxièmement, nous assimilions la bonté au désir exaucé. Ainsi, quand Dieu dit non à même un bon désir, nous évaluons sa bonté pour ses refus. Notre désir, ça peut être un bon désir, un désir légitime, mais quand Dieu il dit non à notre requête, on pose les questions sur sa bonté. Et je pense que c'est une incrédulité à la fois en sa bonté et en sa souveraineté. Dieu n'est pas obligé de dire oui pour tout ce que nous demandons. Dieu reste Dieu. Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Mais Dieu, il ne fait pas toujours ce que nous demandons. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous ne pouvons tout simplement pas savoir ce qu'il est mieux pour nous et ce qui lui apportera le plus de gloire parce que nous ne sommes pas souverains. Nous ne pouvons pas voir l'ensemble de ses plans. Nous ne voyons pas comment Dieu agit. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Notre vie inclue. Dieu fait toutes choses pour sa gloire, mais nous cherchons bien souvent notre propre gloire, notre propre renommée, notre propre dignité. Mais Dieu ne le voit pas ainsi. Dieu, il fait toutes choses pour sa gloire. Mardi soir, nous avons vu que comment Dieu, toute sa création était faite pour sa propre gloire. Tout devrait glorifier Dieu. Et notre vie inclue. Et s'il choisit de dire non, parce que cela nous fait revenir vers lui avec notre indigence, alors il y a de la bonté dans ce genre de dépendance. Quand Dieu il dit non pour certaines choses, c'est pour, parce que nous, il veut que nous comprenons notre misère, notre pauvreté, et que nous comprenions que on peut pas vivre avec notre autodépendance, en dépendance sur nous-mêmes. Nous pouvons pas vivre indépendamment. On a besoin de dépendre à notre Créateur, à notre Dieu. Quel meilleur endroit pourrions-nous être que près de à son côté? Notre meilleure place est être près de son côté. Et troisièmement, nous voyons que nous sommes tous esclaves de notre vision limitée. Tous les êtres humains sur cette terre, tout le monde, nous sommes tous esclaves de notre vision limitée. Imaginez, lorsque nous traversons un tunnel, quelle est notre vision? Est-ce qu'on voit beaucoup de choses? Notre vision, elle est très limitée quand nous passons par un tunnel. Hein. Parfois, le tunnel en France, ça peut durer plusieurs minutes, hein, plusieurs kilomètres. N'est-ce pas limité? Nous pratiquement ne voyons rien que quelques lumières tamisées et quelques lignes droites. Tout ce qui est tangible, proche, facile à reproduire, c'est ce que nous répondons à nos désirs avec. Pensez aux façons donc que nous répondons à des besoins plus profonds, comme la solitude ou la peur, avec des choses créées comme la nourriture, les boissons, les biens matériels, les expériences cathartiques. Souvent, on essaie de remplacer les choses par d'autres choses. Mais quand il y a un manquement, un vrai manquement, ce qui peut remplir cet espace, c'est Dieu seul. On ne peut pas essayer de remplir avec des choses matérielles, des choses éphémères. Mais bien souvent, nous avons cette tendance de remplir la vide qui se trouve dans notre vie, pas avec Dieu, mais pas avec la soif de Dieu, mais avec des choses périssables, avec les choses matérielles. Nous savons que la nourriture ou la nouvelle tenue ne peut pas nous rendre moins seuls ou moins angoissés. On dit que quand les gens ils sont déprimés, ils ont la tendance de manger beaucoup pendant la dépression. Et sinon, pendant la dépression, pour surmonter la dépression, les gens ils ont la tendance de dépenser, aller faire les courses, dépenser les choses. Mais la nourriture ou une nouvelle tenue ne peut pas nous rendre moins seuls ou moins angoissés. Mais nous recherchons souvent des fruits à portée de main parce que c'est accessible, facile et coûte moins cher que la dépendance au Christ. Et nos natures pécheresses sont pliées vers l'autosuffisance, qui n'est que le plus vieux mensonge du temps. Satan a travaillé sur celui-là dans le jardin d'Éden. Les nuits sombres de l'âme sont quand nous apprenons la dépendance absolue envers Dieu seul. C'est ce que nous ne pouvons pas apprendre quand nous avons tout ce que notre chair désire. Donc, en leur absence, c'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment voir que le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin et qu'il suffit. La présence de Dieu est ce qu'il promet. Et c'est plus que suffisant. Et ce qu'il a fait à Jacob, je serai avec toi. Je suis avec toi. Mais Dieu n'avait pas seulement été avec lui comme il avait promis, il avait gardé. Dieu est resté fidèle à sa promesse et l'a délivré. Et Jacob a pu remarquer à sa maison que et votre père Laban s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ayant reçu la promesse de Dieu de sa présence, qu'il était avec lui, sa préservation qu'il a gardée et sa persévérance qu'il ne quitterait pas avant d'avoir fait tout ce qu'il avait dit. Jacob s'est réveillé. Dieu il a non seulement dit que il serait avec lui, il est avec lui, il l'a gardé dans sa vie, dans tout ce qu'il faisait. On ne peut pas dire que Jacob il était toujours correct avec les autres. Jacob, c'est un manipulateur, il a fait des choses. Mais Dieu a gardé sa promesse, il gardait Jacob à cause de sa fidélité, à cause de sa promesse, à cause de sa promesse à son père Abraham, à son père Isaac. En Genèse 28, 17, on dit qu'il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Nous pouvons remarquer ici que maintenant il avait peur, mais pas de l'inconnu, pas d'être seul, pas d'Ésaü, son frère, qui voulait se venger. La peur de Jacob était un sentiment d'admiration et d'émerveillement accablant devant la présence consciente et ressentie de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est autre que la maison de Dieu, qui dans sa forme la plus simple signifie le lieu où Dieu habite, sa demeure. Alors, regardez avec moi en Exode, le livre juste après, Exode chapitre 19, 9 à 13. Exode chapitre 19, versets 9 à 13. Et quand Jacob il a vu la présence de Dieu, la parole nous dit qu'il a eu peur. Et son peur était un sentiment d'admiration et d'émerveillement accablant devant la présence consciente et ressentie de Dieu Tout-Puissant. Et je pense que ce serait utile pour nous pour lire ce passage. Exode 19, 9 à 13. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en moi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifiez-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera des flèches. Animal ou homme, il ne vivra point, car la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. » Ça, c'était l'état quand le peuple d'Israël devrait rencontrer leur Dieu, le Dieu trois fois saint. Bien sûr, le peuple d'Israël ne s'est pas réjoui d'une entrée libre au Dieu très saint, comme nous le faisons à cause de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous avons une entrée libre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le premier effet de cette vision sur Jacob, un effet très nécessaire, a été qu'elle a humilié, comme cet endroit est épouvantable. Il dit que ce lieu est redoutable. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Je ne suis pas digne d'être ici. Je ne suis pas digne d'être ici, dans ce lieu. » La révélation divine nous rendra toujours très humbles. Il y a ceux qui prétendent avoir la révélation de Dieu, mais qui sont clairement gonflés par ce qu'ils savent et prêts à la dominer sur les autres à cause de leur prééminence spirituelle supposée. Même si vous connaissez la Bible par cœur, ça ne vous donne pas une prééminence sur des autres frères et sœurs. La connaissance gonfle. Et personne ne peut être fier de lui-même pour être dans ce lieu. Si vous ressentez la présence du Dieu dans ce lieu, normalement, chacun d'entre nous, nous devrions être humiliés, humbles devant lui. Alors là, ils ne peuvent pas vraiment avoir rencontré Dieu, ce type de personnes. Ils ont simplement la connaissance qui gonfle. Nous sommes si différents et nous-mêmes de ce que Dieu montre être sa volonté pour nous en Christ, que nous ne pouvons que trembler comme Jacob l'a fait, et confesser notre indignité totale. Quand il vit la maison de Dieu en vision, il dit comme Isaïe, « Je ne suis pas digne d'avoir quoi que soit à voir avec ce lieu. Il est trop grand, trop haut et trop saint pour moi. » Comme cet endroit est redoutable, c'est une réaction très saine. Est-ce que nous avons la même réaction comme Jacob quand nous sommes dans le lieu saint où Dieu l'habite, quand nous entrons dans la maison de Dieu? Il peut souvent être difficile pour nous d'y croire, mais c'est exactement ce que l'Église locale est aujourd'hui. Paul, dans son épître aux Corinthiens, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 3, 16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Une église locale, ce n'est pas une association culturelle comme une autre, où parfois les gens elles peuvent être membres de plusieurs associations. Oui, je suis membre dans cette association aussi, je vais de temps en temps pour m'informer par rapport à des choses spirituelles, c'est bien pour la vie. Non, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce n'est pas la question d'être membre d'une église, comme être membre dans une association. Le règlement de gouvernement nous oblige de former une association par rapport à l'État. Mais nous sommes le temple de Dieu. L'église locale, c'est le temple de Dieu. En Éphésiens 2:19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Est-ce que, en étant le temple de Dieu, en étant la maison de Dieu, en étant les gens de la maison de Dieu, nous avons cette crainte, nous avons cette révérence envers notre église locale, où nous traitons simplement comme une association? L'apôtre Paul a parlé de la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, se référant non pas, bien sûr, au bâtiment où les chrétiens se rencontrent, mais à la compagnie du peuple de Dieu. Pourtant, beaucoup d'entre nous doivent confesser que nous sommes exactement comme Jacob. Nous ne réalisons pas que le Seigneur est en ce lieu. Comme nous ressentons rarement un sentiment de véritable admiration en sa présence, pour beaucoup d'entre nous, le sens du mystère a été remplacé par le bâillement de la familiarité. Comme si ce n'est rien d'extraordinaire pour nous de rencontrer Dieu, rencontrer le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Seigneur du Seigneur. Est-ce que c'est devenu, si c'est devenu une routine, je pense que c'est bien même d'arrêter pour repenser ce que nous sommes en train de faire chaque semaine. Si c'est devenu une routine, nous devrions certainement réfléchir. Est-ce que aller à l'église, ça vous ennuie? On sait très bien ce que ça va passer. Le frère va monter, on va faire ça, celui-là, celui-là. On va chanter ces cantiques. Et après, il aura l'offrande, après une prédication. Après, c'est fini. Si ça devient une routine, on vient au temple de Dieu pour lui adorer, pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour remplir notre connaissance biblique. Et Jacob, pour sa part, a découvert que dans la maison de Dieu, sa présence surpuissante est très, très réelle. Pour Jacob, cette nuit-là, à Bethel, à Luz, cette En vérité, était très très réel. Dans les chroniques de Narnia, je ne sais pas si vous avez lu le livre ou le film, c'est un livre écrit par C.S. Lewis, un auteur chrétien. C.S. Lewis décrit deux filles, Suzanne et Lucy, qui se préparent à rencontrer Aslan le lion. Deux marmottes parlantes, les animaux parlent dans cette histoire, dans le bon sens. Monsieur et Madame Beaver, ces deux marmottes, ont préparé les enfants à la rencontre le lion. « Oh, dit Suzanne, je pensais que c'était un homme. Est-il tout à fait en sécurité? Je me sentirais plutôt nerveux à l'idée de rencontrer un lion. Sûrement, et qu'il n'y ait pas d'erreur, dit Madame Beaver. S'il y a quelqu'un qui peut apparaître devant Aslan sans que ses genoux ne se tremblent, il est soit plus courageux que la plupart, soit tout simplement stupide. » Dans l'histoire, le lion, ça symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Et si, en entrant dans ce lieu, si nous ne tremblons pas, nous n'entrons pas avec une sainte crainte, soit on est tout plus courageux que la plupart d'autres, sinon on n'est pas très intelligent. Alors il n'est pas dangereux, demanda Lucie. Sûr, a déclaré Beaver. Vous n'avez pas entendu ce que Madame Beaver vous a dit? Qui a dit, bien sûr, il est dangereux et à craindre. Mais il est bon. Il est dangereux et à craindre, mais il est bon. C'est le roi. Est-il quelqu'un qui peut se présenter devant lui sans que ses genoux ne frappent? Peut-être que nos genoux sont juste un peu trop stables quand nous entrons dans la présence de Dieu et la maison de Dieu. Parfois, quand nous entrons ici, tout le monde est en train de parler de beaucoup d'autres choses, même avant que le culte commence. On a dit plusieurs fois qu'il y a un temps de préparation pour le culte aussi. On ne peut pas commencer le culte comme un show. Le culte, ce n'est pas un show, certainement pas. Ce n'est pas un spectacle. On ne vient pas asseoir dans les bancs pour regarder qu'est-ce qu'ils vont dire. Je me souviens très bien quand mon fils, il était tout petit, on l'a amené pour le premier jour de l'école. Son maître, le maître, il est sorti, il a dit que je veux que mes élèves, ils restent en silence même avant que la classe elle commence. Même dehors de la classe, il reste en silence. Il a dit que la classe ne commence pas dans la chambre, mais ça commence bien dehors. Quelle est notre attitude quand nous entrons dans ce lieu? Est-ce que nous sommes en train de parler? Le piano se joue? C'est comme si c'était une musique d'ambiance? Non, c'est des cantiques. Nous devrions entrer avec une sainte crainte. On devrait s'asseoir. On peut saluer tout le monde plus tard. Mais je ne dis pas vous, je dis nous. Nous devrions tous pratiquer ces choses parce que nous sommes devant un Dieu qui est saint, très saint. Quand il avait voyagé la veille, Jacob espérait peut-être atteindre et trouver la porte de Luz avant le coucher de soleil. Si c'est le cas, il a échoué. Mais pendant la nuit, il découvre quelque chose infiniment plus excitant. Quand Jacob se leva le lendemain matin, il réalisa que les choses ne pourraient plus jamais être les mêmes. Il savait qu'il avait rencontré Dieu, ou peut-être plus précisément que Dieu l'avait rencontré, et qu'il devait maintenant répondre à ce qu'il avait vu et entendu. Ce n'était pas une option pour lui de simplement l'ignorer, de hausser l'épaule, de ramasser son bâton et de continuer son chemin vers Padan Aram. Et donc, avant toute chose, Jacob a fait deux choses. Tout d'abord, il a pris la pierre qu'il a fait son chevet, se tenir comme un témoin sacré du temps et de l'endroit où il avait rencontré Dieu. C'était le premier de quatre piliers que nous savons que Jacob a érigé. Jacob, il a érigé quatre pierres comme un monument. Et premièrement, nous voyons ici dans Genèse chapitre 28, verset 18. Et après, nous voyons encore 31, 45 et 35, 14 et plus tard à 35, 20. Quand Rachel, elle meurt pendant l'accouchement, il érige encore un pilier. Et deuxièmement, nous voyons qu'il oignit de l'huile sur le pilier avec l'huile qui était un acte de consécration. Il consacre ce lieu, mais bien plus important que sa consécration de pilier était sa propre consécration. Car c'était la seule réponse appropriée à sa rencontre avec Dieu. Vous voyez, Jacob, il n'a jamais pensé qu'il va rencontrer Dieu. Il était en tant qu'un fugitif. Parce que son frère, il cherchait à le tuer. Sa mère, elle envoie Jacob d'aller chez Laban, son frère. Et la nuit où il devrait se coucher pour dormir, il rencontre Dieu. Ou plutôt, c'est Dieu qui le rencontre. Et maintenant, la question se pose à nous. Nous avons rencontré Dieu à un certain moment de notre vie, à un certain lieu. Et qu'est-ce que nous avons fait de cette rencontre? Et qu'est-ce que nous faisons de cette rencontre? Et Jacob, il a versé de l'huile, il a oigné de l'huile sur le pilier, il a consacré ce lieu à cette mémoire. Et plus que là, cela, il l'a consacré lui-même. Et c'était sa seule réponse appropriée à sa rencontre avec Dieu. Et donc, deuxièmement, Jacob fit un vœu. J'ai un problème avec le veau et le vœu. Désolé. Ceci est le premier et le plus long vœu enregistré dans tout l'Ancien Testament. C'était un vœu consécration personnelle. Et l'homme qui a reçu de si merveilleuses promesses de Dieu répond maintenant par un vœu solennel à son Dieu. À première vue, il peut sembler que Jacob était en train de conclure un business accord avec Dieu, de fixer ses propres conditions, mais cela est peu probable pour un homme comme Jacob qui a une sainte crainte de Dieu à ce stade de sa vie. Je sais que j'avais dit que Jacob, il restait toujours un commerçant. Il restait toujours un commerçant. Même avec Laban, de tout ce qu'il a fait, ses manipulations et tout ça, c'était un bon commerçant. Mais il est important de noter que les mots « Si Dieu sera avec moi et me garder pour que je revienne » peut tout aussi bien être traduit « Puisque Dieu sera avec moi et me garder pour que je revienne » ou « Étant donné que Dieu sera avec moi » ou « Voyant que Dieu sera avec moi ». Donc, on devrait comprendre que Jacob n'avait rien à dire par rapport à la promesse de Dieu. C'était souverain et indépendant. Ce n'est pas Jacob qui peut faire, même si l'homme il peut faire le commerce, même l'homme il peut faire faire des choses qui n'est pas saines et saintes, mais Dieu reste Dieu. Dieu ne partagera jamais sa gloire et sa parole, c'est la parole de Dieu. Pour Jacob, l'accomplissement de cette promesse était une conclusion acquise d'avance, une certitude absolue, basée sur la parole du Seigneur impressionnant qui se tenait au-dessus de l'escalier vers le ciel. C'est-à-dire que Jacob a pris Dieu sur sa parole et a fait son vœu sur la base de ce que Dieu avait garanti qu'il ferait. Dans notre conversation entre Dieu et nous, ce n'est pas nous qui tenons le dernier mot, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit le dernier mot. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Par gratitude par gratitude envers Dieu pour ses promesses fermes et en faisant pleinement confiance à Dieu pour les accomplir, chacune d'entre elles, Jacob a juré trois choses. Que le Seigneur qui lui était apparu serait désormais son Dieu. Le Seigneur qui lui était apparu serait désormais son Dieu. Vous savez, dans le temps de l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Genèse et tout, le père de famille était le chef de famille. Dans la famille d'Abraham, c'est Abraham qui est le sacrificateur dans un sens. C'est lui qui adore Dieu avec sa famille. Et donc, c'est le Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac. Mais tant que Jacob il était chez lui, avec ses parents, c'était le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Il n'a jamais parlé de Dieu comme mon Dieu. C'était le Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Mais ici, le Seigneur qui lui était apparu serait désormais son Dieu. C'est une façon de dire que, voilà, j'accepte Dieu, j'accepte le Seigneur. D'une manière générale, on peut voir, même aujourd'hui, après les cultes, on peut entendre ces paroles. J'accepte le Seigneur, d'une manière générale. Mais est-ce que le Seigneur est ton Seigneur? Est-ce que le Dieu est ton Dieu? On peut facilement dire, car Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu, il m'a aimé personnellement. C'est mon Dieu. C'est mon Sauveur. Deuxièmement, que le pilier qu'il avait mis en place deviendra la maison de Dieu pour lui. Même après plusieurs chapitres, après plusieurs années, Jacob revient vers Bethel. Parce que c'est là qu'il a rencontré Dieu. C'est là qu'il a rencontré Dieu. Qu'une partie de ses biens futurs serait donnée à Dieu. C'est là qu'il a fait une promesse que tout ce qui l'appartient, ça appartient à Dieu, parce que c'est lui qui a donné. Jacob affirmant que le Seigneur serait désormais son Dieu, il se pourrait bien que cela ait marqué le début de sa relation personnelle de Jacob avec Dieu. Que le chemin vers Haran s'avérait être pour Jacob ce que le chemin de Damas s'est avéré plus tard être à Saül de Tars, à qui le Seigneur a ressuscité et apparu sur la route. Juste avant sa mort, l'esprit de Jacob est retourné à cet incident. Vous savez, dans plus part, quand il parle avec son fils Joseph, il parle de cet incident, disant à son fils Joseph que Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et m'a béni. Jacob, bien que géographiquement il a quitté ce lieu, mais il n'a pu jamais quitter ce lieu parce que c'est là qu'il a rencontré le Seigneur. C'est Genèse 48, 3. De toute évidence, cela a dû être un moment très spécial et important pour Jacob. Certes, Jacob et Saül ont été arrêtés dans leur élan par des révélations du Seigneur, par des révélations qui ont changé leur vie. Deuxièmement, Jacob a promis que le pilier marquait l'endroit de la maison de Dieu. Beaucoup plus tard, Dieu rappela à Jacob son engagement, lui disant d'aller jusqu'à Bethel et d'y demeurer et faire un autel à Dieu qui vous est apparu. Jacob devait y adorer Dieu. Et troisièmement, Jacob promit de rendre à Dieu une partie de tout ce qu'il reçut, qu'à l'époque n'était aucun bien à part son bâton. Vous savez, quand Jacob il a quitté à Bethel, à Luz, nous voyons Jacob avec une cruche de huile et un bâton. Il n'avait rien d'autre. Mais quand il quitte Paddan Aram, il avait ses femmes, ses enfants, ses concubines, ses bétails et tout cela. Il croyait clairement que Dieu fournirait tous ses besoins, et plus encore, et a volontairement promis de lui rendre un dixième de tout, un dixième de ses troupeaux, fruits de tout. Nous aussi, en tant que chrétiens, devrions considérer comme un privilège de donner nos biens et de nos revenus au Seigneur, ce que, selon le Nouveau Testament, nous devrions faire à la fois proportionnellement et joyeusement. Ce n'est pas une condition. Nous devrions faire proportionnellement et joyeusement. Le moment que nous avons rencontré le Seigneur, et notre vie, elle n'est plus pareille. Elle devrait être changée. Et tout ce que nous appartient, ça vient de Dieu. Tout ce qu'on peut gagner, ça vient de la main de Dieu. Et on peut dire que, comme Job, j'ai rien amené quand j'ai venu dans ce monde et j'amènerai rien quand je quitterai ce monde. Et tout ce que nous gagnons au milieu, même si vous dites que je travaille très, très dur, mais Dieu vous donne la santé et le pouvoir pour travailler. Un employeur pour donner l'emploi aussi. Remarquez que plus tard, Jacob a eu l'occasion de rappeler à Dieu ses promesses et que Dieu a eu l'occasion de rappeler à Jacob son vœu. Quand, obéissant au commandement de Dieu, Jacob retourna sur la terre promise, il reçut un rapport alarmant que Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Genèse 32, 6. Jacob a prié. Il a ramené Dieu à sa promesse à Bethel. Délibérément, je prie de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je le crains de peur qu'il ne vienne m'attaquer, moi et ma mère, les enfants. Car tu as dit, je vais sûrement bien te traiter et faire de tes descendants le sable de la mer que ne peut être compté pour la multitude. Seigneur, tout est très simple. Pas de mère et des enfants, pas des descendants. Si Ésaü vient tuer ses femmes et ses enfants, la promesse de Dieu ne sera pas accomplie. Donc Jacob, il fait rappel à la promesse de Dieu pour lui faire rappeler ce qu'il a promis. Et pour sa part, Dieu a pris le vœu de Jacob très au sérieux, lui rappelant de lui, après que Jacob a eu passé 20 longues années à Haran, il dit encore, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Dieu l'a. Parfois, nous pensons que Dieu l'a oublié sa parole. Mais dans la parole, souvent nous lisons dans le temps convenu, Dieu a souvent ce qu'il a dit pour l'accomplissement de sa parole, dans le temps convenu. Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Est-ce que nous sommes certains de ces choses? Dieu est fidèle, il tient ses promesses. Dieu immuable, ses paroles ne changent jamais. Il est souverain. Maintenant, qu'en est-il de vous? Où est votre Bethel? Combien souvent vous souvenez-vous de votre première rencontre avec votre Dieu? Ce n'est pas un souvenir lointain que, oui, un jour, j'ai entendu une prédication, j'ai répondu à l'appel, j'étais baptisé, et ça devient un souvenir très lointain, très faible pour la vie chrétienne. Combien souvent vous souvenez-vous de votre première rencontre avec votre Dieu? Le Dieu de vos pères est-il de votre Dieu? Je pose les questions à nos jeunes. Le Dieu de votre père est-il votre Dieu? Le Dieu de vos parents est-il votre Dieu? Oui, je viens d'une famille chrétienne. D'accord, mais est-ce qu'il est votre Dieu? Il ne nous a pas choisis pour ce que nous sommes, mais pour ce qu'il est. Comment nous comportons-nous en présence de Dieu? Dieu attend de nous que nous respections les vœux que que nous fassions. Nous sommes enclins à oublier nos vœux quand Dieu accomplit sa promesse. On peut dire beaucoup de belles choses après une prédication, après une conférence. Nous avons tous fait. On dit les belles choses au Seigneur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ferai cela. Je ne ferai plus ce genre de choses. Et après, quand Dieu accomplit sa promesse, nous oublions. Nous avons la tendance à oublier nos vœux quand les choses vont bien. Quand tout va bien, on cherche autre chose. On ne cherche pas Dieu. Nous sommes enclins d'oublier nos vœux lorsque nous sommes laissés influencer par le monde. Il y a une grande pression du monde sur l'Église de Dieu. Il y a une grande pression sur les enfants de Dieu. Et c'est constant. Constamment, nous sommes bombardés avec les choses du monde. Et nous avons la tendance d'oublier Dieu quand les choses vont très mal aussi, parfois. Si nous avons oublié nos vœux, nous devons revenir au début. Si vous avez oublié ce que vous avez dit à votre Dieu, vous devrez revenir à cet endroit pour que nous pouvons rappeler ce que nous avons dit. C'est bien de venir à Bethel, revenir à Bethel. Lorsque nous revenons vers nos vœux oubliés, il y a de nouvelles bénédictions. Jacob, certainement, quand il est revenu à Bethel, il était béni énormément. Êtes-vous chrétien, mais ne vivez pas la vie de vous pouvez consacrer et engager que Dieu attend. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous ne vivez pas la vie de vous consacrée et engagée que Dieu attend. Comme Jacob, vous avez oublié votre vœu, vous devrez revenir au Seigneur en pleine repentance. Les bénédictions du ciel vous attendent si vous le faites. Si vous n'êtes pas encore chrétien, ces mêmes bénédictions peuvent être les vôtres si vous n'acceptez que l'évangile de Jésus-Christ. Car le Seigneur, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15 à 16. Que c'est, ce que nous avons vu dans ce chapitre pourrait être de bonnes leçons pour nous si nous avons oublié Bethel, s'il y a déjà un Bethel dans notre vie, où nous avons rencontré Dieu dans notre vie, c'est important. Sinon, si nous n'avons pas rencontré, passé par Bethel, nous serons les vagabonds dans ce monde. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous pour rester fidèle à lui. Car lui, il est fidèle par rapport à ses promesses, par rapport à sa parole. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole nous parle. C'est une épée double tranchante qui parle à ceux qui prêchent et ceux qui écoutent. Seigneur, rends-nous sensibles à ta parole. Seigneur, nous ne pouvons rien cacher. Nous sommes devant toi et rien n'est caché devant tes yeux qui promènent partout, qui sondent les cœurs, le plus profond de nos cœurs. Seigneur, oui, nous avons des choses à te confesser. Seigneur, nous oublions ce que nous avons dit à toi dans certains moments de notre vie. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, même Bethel, ça nous semble d'être loin pour nous, Seigneur. Mais dans ta parole, tu nous dis que tu as oublié ton premier amour. Seigneur, aide-nous à garder cette flamme tout le temps dans notre cœur, cette ardeur, cette zèle qui brûle pour toi. Seigneur, que aide-nous à consacrer, reconsacrer notre vie. Seigneur, à jamais oublier ce que tu as fait pour nous. Seigneur, que un jour nous avons te rencontré, et c'est pourquoi nous avons ce libre accès par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous prions pour ceux qui n'ont pas encore cette expérience d'avoir te rencontré, Seigneur. Nous te prions que tu touches chacun, que Seigneur, ta parole œuvre dans leur cœur, et que Seigneur, ils peuvent rencontrer le Dieu de Dieu vivant, le Dieu Sauveur. Pas simplement Dieu de nos pères, nos grands-pères, le Dieu de la famille, le Dieu de l'Église de Saint-Denis, mais Seigneur, que tu deviens leur propre Dieu et leur propre Sauveur. Que ton nom soit loué dans toutes ces choses. Seigneur, aide-nous à chercher ta gloire premièrement. Entre nous, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.